Bonjour, mes frères et sœurs. Je suis heureux de vous voir tous en ce jour du sabbat. Nous venons d'entendre, dans le premier message d'aujourd'hui, le docteur Villiers nous parler du lavage des pieds. Je vais maintenant aborder les autres symboles, ou les autres parties du service de la Pâque. Je vais parler du pain et du vin. C'est quelque chose que nous faisons régulièrement. Nous avons des articles dans le magazine de Pilar, où nous avons parfois des messages qui traitent des différentes parties du service de la Pâque. Je me souviens que, enfant, cela m'intriguait toujours. J'ai grandi dans l'église, comme certains d'entre vous le savent peut-être, et j'étais curieux. Mes parents partaient un soir avant la nuit qui précédait les jours des pains sans levain. Ils étaient peut-être un peu plus sérieux ce soir-là. Ils étaient un peu plus sobres. Ils avaient beaucoup à méditer. Ils avaient beaucoup à réfléchir. Et j'ai entendu dire qu'ils mangeaient ce pain, qu'ils buvaient ce vin. Je ne savais pas toujours de quoi il s'agissait ni quel en était le but. Bien sûr, j'ai appris tout cela depuis, et vous aussi, pour la plupart d'entre vous. Mais il est très utile, alors que nous nous préparons à célébrer la Pâque, alors que nous nous préparons pour les fêtes de printemps, de revoir ce que ces deux symboles signifient. Ce que le pain signifie pour nous, et ce que le vin signifie pour nous. Allons à Marc chapitre 14. Je vais simplement lire l'un des trois passages de l'Évangile pour commencer, là où l'on commence à expliquer ces deux symboles. Oui, c'est l'une de ces choses qui, parmi tout ce que nous faisons selon la voie de Dieu, est un peu différente, un peu particulière. C'est comme le lavage des pieds. Pourquoi le faisons-nous? Cela revêt une grande importance pour nous. Passons à Marc chapitre 14. Lisons ce passage à ce sujet. Au verset 22, et comme ils mangeaient, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le leur donna, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Au verset 23, il prit ensuite la coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Puis il leur dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup. Ces trois versets expliquent ce que sont ces deux symboles. Le pain est son corps, et le vin et son sang versés pour beaucoup. Nous allons les examiner et comprendre leur grande signification pour nous, afin de comprendre ce que Dieu nous enseignait, ce que Christ nous enseignait, lors du service de la Pâque par ces deux symboles, et comment ils s'appliquent à nos vies aujourd'hui. Comment ils peuvent nous encourager? Eh bien, ces deux symboles physiques font partie de la création de Dieu. Passons au chapitre 1 de l'Épître aux Romains. Car je souhaite réfléchir à cela cet après-midi. D'une certaine manière, nous irons également vers les Écritures qui le décrivent. Mais nous prenons ces deux symboles. Et ces deux symboles sont très concrets. Et Dieu nous enseigne par sa parole, et nous allons lire cela dans un instant, à quel point certaines choses concrètes sont importantes, et ce que nous pouvons en apprendre. Nous nous tournons souvent vers les Écritures pour d'autres raisons. Lisons-le maintenant. Nous sommes dans Romains 1. Et nous commencerons la lecture au verset 18. Au verset 18, car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qui peut être connu de Dieu est manifeste pour eux, c'est évident pour eux, pour ceux qui sont dans le monde, car Dieu le leur a fait connaître. Comment l'a-t-il fait? Verset 20. Car les choses invisibles de Dieu, depuis la création du monde, sont clairement visibles, étant comprises par les choses qui sont faites, même sa puissance éternelle et sa divinité. De sorte qu'ils sont sans excuse. Pourquoi me tourne-je vers les Écritures? Parce que nous allons examiner les deux symboles du service de la Pâque. Eh bien, Oui, le monde. Le monde lit-il ses écritures? Non, il ne les lit pas. Nous, nous lisons les écritures. Nous avons donc beaucoup à apprendre. Mais ce sur quoi je veux m'attarder, c'est le verset 20, se comprennent par les choses qui sont faites. Ainsi, si nous comprenons les choses qui sont faites, si nous comprenons profondément ces deux symboles, nous pouvons voir les choses invisibles de Dieu. Nous pouvons voir les choses spirituelles de Dieu. Nous pouvons voir sa puissance, sa majesté toute puissante à travers ces deux symboles, en méditant sur leurs aspects physiques et en les examinant. Ils sont extrêmement importants. Passons maintenant à 1 Corinthiens 11 pour avoir une description plus détaillée de cette partie du service de la Pâque. Mais gardez cela à l'esprit, nous pouvons mieux voir et comprendre Dieu lorsque nous regardons sa création physique. Nous examinons les aspects physiques de ces deux symboles. Passons maintenant à 1 Corinthiens 11 où Paul explique un peu plus en détail le service, nous donne davantage d'instructions, et des instructions dont je veux nous rappeler à tous. Verset 23. Nous sommes dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi transmis, à savoir que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut trahi, prit du pain. Et, après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Gardez cela à l'esprit. » Et le verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci, chaque fois que vous en boirez, en mémoire de moi. » Ce sur quoi je veux m'attarder ici, dans ces versets, c'est en mémoire de moi. Paul précise qu'en le faire, la nuit où Christ a été trahi. La veille de cette nuit, nous devons prendre part aux deux symboles, et nous sommes censés le faire en mémoire. Un souvenir est un mémorial. Nous avons de nombreux mémoriaux dans notre culture. Où que nous soyons dans le monde, il existe de nombreux mémoriaux que nous entretenons, et souvent ils ont lieu une fois par an. Au Canada, ceux qui ont une tradition britannique célèbrent le jour du souvenir. Ici, aux États-Unis, je crois que nous l'appelons le jour des anciens combattants. C'est un mémorial qui a lieu une fois par an. Ici, lors du service de la Pâque, Paul rappelle aux Corinthiens qu'il s'agit d'un mémorial, à célébrer en souvenir une fois par an, la veille de la crucifixion du Christ. Poursuivons maintenant notre lecture au verset 26. Avant cela, la raison pour laquelle j'ai mentionné qu'il s'agit d'un mémorial, c'est pour nous le rappeler à tous, car le monde a parfois tendance à le célébrer tous les dimanches, ou bien va à l'autre extrême et ne le célèbre pas du tout. Il suffit de le garder dans son cœur. La parole de Dieu est claire quant à la fréquence et au moment. Le verset 26 est un verset intéressant. Lisons-le. Car chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, c'est ce que nous allons étudier plus en détail, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Comme le disent les traducteurs ou comme le dit le mot, le verset est, tu le lis rapidement. Tu l'annonces simplement. La mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous ne faites que l'annoncer. Pour nous, dans notre anglais moderne, annoncer n'est pas un mot si important. Ce n'est pas un mot si grave. Peut-être pour vous le rappeler. Pour en faire quelque chose de léger. C'est comme montrer et raconter. C'est juste montrer et raconter à la maternelle ou en CP. Ce n'est pas grave. Vous ne faites que proclamer la mort du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Regardons le mot grec. Et gardez à l'esprit, oui. Nous ne sommes pas tous dans le ministère. Ça, nous le savons. Nous ne sommes pas tous derrière l'autel ou la table à célébrer la Pâque. Mais ce verset s'adresse à nous tous. Vous montrez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Regardons le mot « montrer ». Le mot « montrer » signifie enseigner, prêcher, déclarer, proclamer. Ainsi, chacun d'entre nous, ceux qui sont membres baptisés de l'Église de Dieu, se rend au service de la Pâque. C'est ce que nous faisons. Lorsque nous célébrons le service de la Pâque, lorsque nous prenons part à ces deux symboles, nous enseignons, nous prêchons nous-mêmes. Par nos actions, nous déclarons et nous proclamons la mort du Christ, la mort de notre Seigneur. À quel point, à bien des égards, cela vous fait-il réfléchir? Cela a bien plus de sens que de simplement le montrer. Non. Vous le proclamez. Vous l'enseignez. Vous le déclarez. Oui, les membres de notre famille, nos voisins doivent s'interroger, car nous nous habillons peut-être un peu différemment lorsque nous sortons ce soir-là. Nos collègues quittent peut-être le travail plus tôt. Mais qu'en est-il de celui ou celle qui est seul, eux, et qui célèbre la Pâque? Et peut-être y a-t-il un conjoint non-croyant à la maison, et cette personne célèbre la Pâque en silence dans une pièce parce qu'elle ne peut pas se déplacer assez loin pour rejoindre les autres, et elle célèbre le service de la Pâque. Quel exemple ils donnent à ceux qui les entourent, peut-être au reste de leur famille, à leurs conjoints non-croyants? Quel exemple ils donnent? Quel exemple vous et moi donnons lorsque nous observons ces symboles, lorsque nous célébrons le service? C'est bien plus que simplement commémorer la mort de notre Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Le fait que nous soyons là ce soir-là, chacun d'entre nous, c'est le déclarer, c'est le proclamer à tous ceux qui voient, à tous ceux qui nous voient le faire, qui nous entendent le faire. Quelle importance revêt cette soirée? Quelle importance revêt ces deux symboles? Oui, dans 1 Corinthiens 11, les versets suivants décrivent et montrent à quel point il est important de prendre ces symboles après nous être examinés nous-mêmes. Nous avons récemment eu un sermon à ce sujet qui nous a montré comment nous devons faire cela avant d'entrer dans les jours qui nous attendent. Ces versets sont très importants. Considérons maintenant le pain. Entrons dans les détails de ce dont il est question cet après-midi. Nous avons tous souvent entendu, quand nous étions enfants, en grandissant, j'en suis sûr, je l'ai entendu de mes parents, que souvent nous sommes ce que nous mangeons. Et si vous étudiez la nutrition, si vous étudiez la santé, si vous étudiez beaucoup de choses que l'Église enseigne également, les lois d'une vie saine, vous apprenez que nous sommes véritablement ce que nous mangeons. Tout ce que nous mangeons devient une partie de nous. Et à quel point est-ce important? Gardez cela à l'esprit lorsque nous prenons le pain. Pendant le service de la Pâque, alors que nous apprenons l'importance de ce symbole, gardez cela à l'esprit. Nous sommes ce que nous mangeons. Ce que nous mangeons devient une partie de nous. Littéralement. En réfléchissant à cela, pourquoi Dieu a-t-il choisi le pain? Voyons voir. Si vous regardez à travers le monde, dans presque toutes les cultures, chaque société a une forme de pain dans ses repas. Quoi qu'ils mangent, ils ont une forme de pain. C'est peut-être ce qui nous est le plus familier. Ici, dans cette région, aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient, nous sommes habitués à manger du pain de blé. C'est courant. C'est ce que nous comprenons. C'est ce qui nous est familier. Si vous venez d'Asie, vous avez des galettes de riz et d'autres types d'aliments appréciés qui sont des formes de pain. En Amérique, on trouve des tortillas de maïs, ou en Amérique du Nord. Les Amérindiens avaient du pain de maïs. C'est courant, donc présent dans toutes les cultures. C'est extrêmement familier. En Afrique, ils avaient du millet ou du sorgho, des galettes et des plats. Autrefois, 50 à 70% des calories de l'apport énergétique de l'humanité provenaient du pain. Quelle importance cela a-t-il? À quel point est-ce crucial pour la société? On dirait que les empires s'élèvent et tombent en fonction de leur capacité à produire du pain, à nourrir leur peuple. Dieu a choisi cela en toute connaissance de cause. Ce n'est pas seulement familier à une seule culture. C'est familier à nous tous, partout dans le monde. Nous avons tous nos propres formes de pain. Nous avons tous nos propres formes de ce repas qui nous nourrit et subvient à nos besoins. Que font le pain, les galettes de riz ou d'autres repas similaires? Ils fournissent des glucides. Une source d'énergie primaire. Ils nous permettent de continuer. Ils entretiennent le feu dans nos fourneaux, dans nos fours. Ils alimentent notre feu. Les protéines fournies par le pain nous construisent et réparent nos tissus. Elles font donc partie de nous. Elles ne se contentent pas de nous donner de l'énergie. S'il y a des parties de notre corps qui ont besoin d'être réparées ou des parties de notre corps qui ont besoin d'être construites, c'est ce que le pain apporte. C'est ce dont le pain fait partie. Les fibres aident à maintenir le système digestif propre, aide à le faire fonctionner, comme on dit, les fibres contenues dans le pain. Les vitamines B nous aident à produire de l'énergie. Les minéraux, le fer, le calcium, le magnésium. Le fer permet à notre sang de fonctionner. Entre autres choses, le calcium devient partie intégrante de nos os. Le magnésium nous aide à équilibrer les sels dans notre corps et nos systèmes électriques qui font fonctionner notre cœur et notre système nerveux. C'est tout ce que le pain nous apporte. C'est toute la partie physique du pain qui devient partie de nous, qui nous nourrit. Si vous y réfléchissez, la plante, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse d'un plant de riz, de maïs ou de blé, puise l'énergie du soleil, extrait les minéraux du sol, capte le carbone de l'air pour produire des sucres et de l'énergie afin de nous construire, de faire partie de nous. D'une certaine manière, si nous regardons notre petit doigt, les cellules de ce petit doigt, une partie d'entre elles, proviennent en fin de compte du pain que vous avez mangé. L'os, peut-être le calcium que vous avez consommé dans le pain. Cela fait partie de vous. C'est en vous. On pourrait dire, c'est une affirmation très générale, c'est une généralisation, que nous sommes faits de pain. Nous sommes faits de ce symbole que Dieu utilise lors de sa Pâque. Allons à Luc chapitre 22, verset 19. Nous y lisons un verset qui parle spécifiquement de ce symbole. Gardez à l'esprit tous les aspects physiques. Chaque culture utilise le pain sous une forme ou une autre. L'importance de la façon dont il nous anime, dont il nous aide à subsister, dont il nous donne la vie, dont il devient une partie de nous. C'est quelque chose auquel je ne pense pas souvent, c'est une remarque personnelle, quand je mange. Je mange pour avoir de l'énergie. Je mange pour continuer à fonctionner. Je ne pense pas souvent que ce que je mange va réellement faire partie de moi. Je mange parce que j'ai faim. Prenez un moment pour faire une pause et réfléchir. Ce que vous mangez devient une partie de vous, devient une partie intégrante de vous qui vous aide à vivre. C'est ce qui rend ce symbole extrêmement important. Nous sommes dans Luc chapitre 22. Lisons le verset 19. C'est Christ qui décrit ses propres actions. Et il prit du pain, rendit grâce, le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Christ dit, « Ceci est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi. » Il établit une analogie, un symbolisme selon lequel ce pain symbolise le corps du Christ. Gardez maintenant à l'esprit ce que nous venons de lire au sujet du pain que nous mangeons, ce qu'il fait et comment il devient une partie de nous, l'importance de cela. Et lorsque nous célébrons le service de la Pâque, nous utilisons toujours du pain sans levain. C'est extrêmement important. Passons à Galates 5, verset 9. Je suis sûr que nous avons peut-être lu cela récemment lors de notre préparation à la Pâque. Galates 5, verset 9. Je sais que le levain symbolise le péché. Nous sommes à Galates 5, verset 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Verset 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Nous ne pouvons pas avoir de levain dans le pain que nous utilisons, le pain qui symbolise le corps du Christ, qui symbolise la vie du Christ, qui symbolise la façon dont il a vécu. Il ne peut y avoir aucun levain dedans, car le levain va gonfler et envahir tout le pain. Le levain symbolise le péché. Comment Christ a-t-il vécu? Passons à 1 Pierre 2. Comment Christ a-t-il vécu? Si l'on regarde le pain que nous mangeons à la Pâque, il est plat, il est sans levain. Nous savons qu'il est sans péché. Rappelons-nous, comment Christ a-t-il vécu? Nous sommes dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 21. Car c'est à cela que vous avez été appelés, puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous, les, suiviez ses traces. À titre d'exemple, nous devons suivre ses traces. Cela pourrait prendre davantage d'importance plus tard, lorsque nous examinerons le pain. Lui qui n'a commis aucun péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. En bref, nous nous demandons pourquoi du pain sans levain. Le pain au levain symbolise le péché, et le levain fait gonfler tout le pain. Mais Christ n'a commis aucun péché. Christ était totalement sans levain. Il n'a commis aucun acte de péché. Rien de ce qu'il a fait n'était péché. C'est incroyable. C'est inspirant. C'est pour cela que nous sommes ici, à bien des égards. Mais à quel point encore? Passons à la deuxième épître aux Corinthiens. Il n'a donc commis aucun péché. Et vous savez, dans nos luttes, lorsque nous travaillons et marchons selon la voie de Dieu, nous essayons de faire de même. Et souvent, nous trébuchons, nous tombons. Nous sommes des êtres physiques, et parfois nos actions ne sont pas conformes à la loi de Dieu. Mais Christ n'a jamais fait cela. Il place la barre plus haut pour nous, en tant qu'exemple, exemple que nous devons suivre, exemple selon lequel nous devons marcher. Car dans 2 Corinthiens 5, nous en apprenons davantage sur ce que Christ a fait et pourquoi il est représenté par le pain sans levain, pourquoi il est représenté comme étant sans péché. Au verset 21, « Car Dieu a fait de lui un péché pour nous, lui qui n'a point connu le péché, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Qui n'a point connu le péché, c'est sur cela que je veux m'attarder pour entrer dans le contexte de la fin du chapitre. Mais concentrez-vous vraiment sur ces quatre mots, qui n'a point connu le péché. Oui, souvent, nous pouvons faire mieux pour nous assurer que nos actions physiques ne franchissent pas la ligne, ne deviennent pas péché. Nous pouvons généralement faire mieux à cet égard en tant qu'êtres humains. Mais garder nos pensées pures, faire en sorte qu'aucune de nos pensées ne soit entachée de péché, c'est plus difficile. C'est bien plus difficile. C'est l'exemple que Christ nous a donné. L'exemple que nous devons suivre. Comme il est important que Christ soit représenté par le pain sans levain, un pain sans péché à double titre. Sans péché, sans action. Sans péché, sans pensée. Aucun péché. C'est pourquoi nous utilisons du pain sans levain. Et cela ajoute de l'importance au pain que nous prenons. Passons à Jean chapitre 6. Jean 6, verset 47, L'exemple que nous sommes censés suivre, l'exemple du Christ. Christ a montré que son corps est représenté par le petit morceau de pain que nous prenons à chaque Pâques. Nous devons suivre cet exemple. Considérer les aspects physiques du pain lorsque nous le mangeons. Au fil des ans, il devient une partie de nous. Gardez cela à l'esprit. Nous sommes maintenant dans Jean chapitre 6, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Ce n'est pas là que cela s'arrête. C'est là que certains dans le monde diront, c'est tout. Il suffit de croire en Christ et vous l'aurez. Vous y êtes arrivé. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Le mode de vie de Dieu est plus que cela, bien plus que cela. En fin de compte, la récompense est meilleure que ce qu'on enseigne dans le monde. Ce que nous comprenons, c'est que nous devenons membres de la famille de Dieu. Continuons au verset 48 en nous concentrant sur le sujet qui nous occupe. Je suis le pain de vie. Christ déclare, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Voici le pain qui descend du ciel, afin que l'on en mange et qu'on ne meure pas. Christ fait allusion, et nous en parlerons lorsque nous examinerons le vin et le sang, aux pères qui ont mangé la manne dans le désert et qui sont morts. Dieu leur a fourni du pain à manger. Ce pain n'était que du pain physique. Il n'y avait aucune vie attachée à lui. Le sacrifice et la résurrection du Christ n'étaient pas liés à ce pain. Il n'y a pas de symbolisme spirituel qui nous anime. Ceux qui en ont mangé sont finalement morts. Oui, ils auront leur moment, leur temps pour apprendre la vérité de Dieu d'une manière plus profonde, comme nous l'avons fait, et ils auront les mêmes opportunités que celles dont nous disposons aujourd'hui. Mais le verset 50, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que l'on en mange et qu'on ne meure point. À quoi Christ fait-il référence? Et s'agit-il simplement de manger ce pain à la Pâque et c'est tout, nous avons la vie éternelle? Oui, nous devons prendre part au symbole. Oui, nous devons les ingérer et y prendre part, mais il y a l'exemple que nous devons suivre. Verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je vous donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie que je donne. Il va donner sa vie pour la vie du monde. Relisons cela. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. En avons-nous besoin au sens littéral? Bien sûr, nous y reviendrons avec les Juifs. Il ne s'agit pas littéralement de manger Christ. Bien sûr que non. C'est prendre part au symbole de la Pâque. Bien sûr que c'est aussi cela. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Ainsi, Christ a donné sa vie afin que le monde entier puisse avoir la vie. Verset 52, regardons cela. Les Juifs, parfois, ne pensaient qu'au sens strictement physique, ne comprenaient pas le fond du propos, ne saisissaient pas le lien. Les Juifs se disputaient donc entre eux, disant, comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Comment est-ce possible? La nature humaine, qui n'est pas guidée par Dieu, qui n'est pas avec le Saint-Esprit de Dieu, ne comprend pas ce qui est dit ici. Ils se disputaient entre eux, comment est-ce possible? Et l'exemple que nous sommes censés suivre, c'est cela, en outre, que je veux souligner ici. Oui, Christ est le pain de vie. Oui, nous devons manger ce petit morceau de matzah à chaque Pâques. Mais est-ce tout ce que Christ veut que nous fassions? Est-ce tout? Nous lisons dans la première épître de Pierre qu'il est notre exemple. Nous devons suivre son exemple. Nous savons que Christ est la parole. Nous savons que la Bible est la parole de Dieu, dans son intégralité. Que veut-il finalement que nous fassions? Il veut que nous prenions tous les enseignements de Dieu, toute la voix de Dieu, et que nous les intériorisions, que nous les vivions, que nous fassions de ces paroles, des paroles de Dieu, de toutes les paroles de la Bible, ce que le pain que nous mangeons chaque jour devient une partie de nous, ce que le pain que nous mangeons chaque jour nous donne l'énergie de vivre. Mangeons-nous la parole de Dieu de la même manière dans notre étude de la Bible pour qu'elle nous donne l'énergie de vivre, pour qu'elle fasse partie de nous? C'est comme le calcium dans nos os. C'est tellement ancré en nous. Cela fait tellement partie de nous. Que les enseignements du Christ, les enseignements de Dieu, le mode de vie de Dieu à travers toute la Bible deviennent si profondément ancrés dans notre être. C'est le calcium dans nos os. C'est la protéine de nos cellules et du bout de notre petit doigt. C'est jusqu'où Christ veut que nous allions, jusqu'où il veut que nous intériorisions ce petit morceau de pain que nous prenons à chaque Pâques et qui devient une partie de notre corps, une partie du mode de vie auquel nous avons été appelés. C'est là que les Juifs ne pouvaient pas comprendre. Comment est-ce possible? C'est le symbolisme. C'est l'importance de prendre le pain de vie. Si la parole de Dieu est la parole de vie, et que le pain est un pain de vie, reliez ces deux éléments. Mangez la parole, absorbez les instructions de Dieu, en faire une partie de nos vies comme un symbole du pain que nous mangeons chaque jour et du symbole plus important du pain de la Pâque dont nous prenons part. Assurons-nous tous de l'intérioriser, de l'avoir en nous aussi intimement que le calcium dans nos os, les protéines dans nos cellules. Parlons davantage du pain. Pourquoi est-il rompu? C'est une partie du service. Pour ceux qui, et j'en ai parlé avec d'autres ministres, ont célébré le culte, sont arrivés à ce moment où nous avons béni le pain, puis l'avons rompu de nos mains. C'est une expérience qui donne à réfléchir. Cela touche le cœur. Cela vous frappe d'une manière telle que, lorsque je l'ai fait, cela ne m'a jamais touché de cette façon ni avant ni depuis. Mais quelle importance revêt le fait que ce pain soit rompu? Allons voir quelques versets pour en savoir plus. Car lorsque vous, en tant que célébrant du service de la Pâque, rompez le pain, cela prend une dimension concrète, physique, d'une manière difficile à expliquer, mais que nous devons tous intérioriser, sur laquelle nous devons tous méditer. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 50, verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux outrages et aux crachats. C'est Christ qui décrit ce qu'il endurait. Nous allons lire quelques versets ici. Nous n'allons pas tout lire. Il est utile de relire tout ce chapitre avant la Pâque. Passons à Ésaïe 52, verset 14. Et beaucoup ont été stupéfaits à ton sujet. Son aspect était défiguré plus que celui de tout homme, et son apparence plus que celle des fils de l'homme. C'est ce que Christ a enduré, et pourquoi l'a-t-il enduré? Allons au psaume 53. Psaume 53. Je voulais dire Ésaïe 53. Nous venons de lire comment Christ était défiguré plus que tout homme. J'ai du mal à comprendre cela. J'y crois. Nous avons vu de vraies vidéos de guerre. Nous avons vu ce que les hommes s'infligent les uns aux autres. Et cette affirmation se trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu purifiée cette fois. Et nous lisons cela. Et nous devons comprendre que Christ a été défiguré plus que tout autre homme. Et les choses que nous voyons aux informations ou celles que nous avons vues dans les films dépeignant les actes horribles de l'homme, ce que l'homme fait à son prochain, mais Christ a subi pire encore. Peu importe à quel point nous avons vu des choses horribles, Christ a subi pire encore. Comment est-ce possible? C'est difficile à saisir pour notre esprit humain. Avec le Saint-Esprit de Dieu, nous pouvons en être touchés et, en fin de compte, inspirés. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 53. Je voudrais lire les versets 4 à 7. Il a porté nos souffrances, ce sont les deux versets précédents que nous avons lus. Eh bien, pourquoi? Pourquoi le pain est-il rompu? Il a porté nos souffrances, il a supporté nos douleurs, et pourtant nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, verset 6, chacun s'est détourné vers son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alors que nous rompons le pain, alors que nous entendons le pain se rompre, souvenez-vous que c'est nous. C'est tout ce que nous avons fait dans nos vies, c'est tout ce que l'humanité a fait. Nous avons brisé son corps. Aucun os n'a jamais été brisé. Nous avons défiguré son corps par nos actions. Il a pris sur lui toute notre iniquité. C'est le verset 7. Il a été opprimé et affligé, et pourtant il n'a pas ouvert la bouche. Il a été mené comme un agneau à l'abattoir, et comme une brebis devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. En fin de compte, il a pris sur lui tous les péchés de l'humanité afin que nous puissions avoir la vie. Nous lisons au sujet du pain, nous lisons au sujet du Christ, de la foi en Christ, afin qu'en fin de compte, nous puissions avoir la vie, afin que nous puissions vivre. Christ a pris tout cela sur lui. Mais au verset 5, « Et par ses meurtrissures nous sommes guéris. » Passons à 1 Pierre 2, verset 24. C'est pourquoi, plutôt dans les Corinthiens, nous l'avons sauté, là où nous devons nous examiner, nous évaluer, nous scruter, nous regarder, et prendre le pain avec la bonne attitude. Après avoir fait tout cela, avec la bonne sobriété, le bon sérieux, la crainte de Dieu, afin que nous puissions revendiquer cette promesse. Relisons-le dans 1 Pierre 2, verset 24. Nous en étions là plus tôt dans ce chapitre, plus tôt dans le message. 1 Pierre 2, verset 24. Cela répète presque ce que nous venons de lire dans Ésaïe. Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. C'est pour cela que Christ a traversé tout cela. Afin que, étant morts au péché, nous vivions pour la justice, par les blessures desquelles nous sommes guéris. Le pain rompu est là pour nous rappeler les blessures que Christ a endurées, et par ces blessures nous sommes guéris. Par ces blessures, nous pouvons revendiquer les promesses de Dieu de nous guérir. C'est pourquoi le pain est rompu. C'est pourquoi nous devons y réfléchir et le prendre avec sérieux, mais plus encore, simplement pour nous rappeler ce que Christ a enduré afin que nous puissions avoir la vie. Nous sommes de nouveau dans la première épître de Pierre. Afin que, étant morts au péché, nous vivions pour la justice. Nous sommes morts sans le sacrifice et la résurrection du Christ, sans participer au symbole de la Pâque, sans que le Saint-Esprit de Dieu n'agisse en nous et sans que nos péchés ne soient pardonnés. Nous ne pouvons pas avoir cette vie sans que Christ ait enduré ce qu'il a enduré et pris tous nos péchés, payant le prix de nos péchés. Nous ne pourrions pas avoir la vie. Mais je suis sûr que l'importance du symbole du pain est désormais plus grande dans vos esprits et plus claire. Considérons maintenant le vin. Nous avons lu que le vin est un symbole du sang versé par Christ. Que fait le sang? Passons au Lévitique, chapitre 17, verset 11. Lévitique. Chapitre 17, verset 11. Silence, nous allons simplement lire la première phrase du verset. car la vie de la chair est dans le sang. En termes simples, le sang qui est en nous, c'est la vie de la chair. C'est notre vie. Dieu l'a enseigné aux anciens Israélites. Sur le plan médical, il nous a fallu un certain temps pour le comprendre en tant qu'humanité, mais Dieu l'a clairement établi. La vie qui est en nous, c'est le sang, c'est la vie. Que fait le sang pour nous? Pour rappel, si l'on considère ses aspects physiques, il transporte l'oxygène dans tout notre corps. Sans lui, notre cerveau cesse très rapidement de fonctionner. L'oxygène n'atteint plus notre cerveau. Il transporte les nutriments. Pensez au pain dont nous parlions. Il le transporte à travers notre corps. Il régule notre température et notre équilibre. La coagulation sanguine nous empêche de nous vider de notre sang. D'une certaine manière, il nous aide à guérir. Il se régénère. Il nous protège contre les infections. La partie la plus importante du sang, la partie la plus importante de l'analogie, c'est qu'il élimine les déchets de notre corps. C'est quelque chose qui fonctionne, et on n'y pense pas souvent. Du moins, moi je n'y pense pas, sauf si je me coupe. Je ne pense pas au sang dans mon corps. Il fonctionne toute la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il accomplit la tâche pour laquelle Dieu l'a créé en chacun de nous. À moins de nous couper, cela ne nous traverse peut-être pas l'esprit. Si nous ne saignons pas, cela ne nous traverse pas l'esprit. Mais il élimine constamment les déchets de notre corps. Si cela ne se produisait pas, notre corps se remplirait de toxines. Notre corps cesserait de fonctionner. Nous souffririons énormément et la mort, évidemment, s'en suivrait rapidement. Mais le sang qui est en nous nous purifie constamment. Il élimine constamment les toxines de notre corps. Passons à Matthieu chapitre 26, verset 28. Matthieu chapitre 26, verset 28. Je vais aborder le troisième, celui que nous n'avons pas encore lu. Chapitre 26, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup en rémission des péchés. Le sang du Christ a été versé pour beaucoup, pour la rémission des péchés, pour le pardon des péchés, pour éliminer de nos vies, spirituellement, les toxines de nos vies, l'iniquité de nos vies, les péchés que nous avons commis. Nous prenons le vin comme symbole du sang du Christ à chaque Pâques pour faire table rase, pour nous réengager à suivre le mode de vie de Dieu, pour que nos péchés soient à nouveau pardonnés. Allons à Exode chapitre 24. En fait, allons à Hébreux chapitre 10, verset 4. Passons à Hébreux chapitre 10, verset 4. Dans l'Exode, nous aurions pu lire que de l'ancienne alliance a été ratifiée par le sang. Cette ancienne alliance, cet Israël physique, l'Église dans le désert et dans la terre promise, ces sacrifices physiques, en fin de compte, il leur manquait une partie. Il leur manquait quelque chose qui n'était pas là. Hébreux 10, verset 4. Laissez-moi lire. Car il n'est pas possible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse enlever les péchés, et c'est le sang de Christ. Le sang de Christ versé pour nous est la seule chose qui puisse enlever nos péchés, la seule chose qui puisse nous purifier, qui puisse nous pardonner. Oui, le sang des taureaux et des boucs, en tant qu'offrande pour le péché, était là à titre d'exemple, était là en tant qu'acte physique, mais il manquait le prix qui devait être payé pour nous tous, le prix de la mort que Christ a payé pour nous. Allons à Hébreux 9. Lisons un peu plus à ce sujet et sur l'importance du vin et le symbolisme du sang de Christ. Verset 13 d'Hébreux 9. Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une génisse, répandu sur ceux qui sont impurs, les sanctifie pour la purification de la chair. Si cela sanctifiait au moins les Israélites physiques, si cela purifiait au moins la chair des Israélites physiques, combien plus le sang de Christ, qui, par l'esprit intérieur, s'est offert lui-même sans tache, nous avons appris que Christ était sans péché, qu'il n'a péché ni en acte ni en pensée, et qu'il était donc sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant? Verset 14. Alors, le sang du Christ, à quel point est-il plus important? À quel point ce sang du Christ est le symbole du vin nous purifie-t-il? Purifie-t-il notre conscience? Nous débarrasse-t-il de nos œuvres mortes et efface-t-il nos péchés? Oui, le sacrifice des anciens Israélites les sanctifia physiquement, purifiait physiquement leur chair, mais il ne leur pardonnait pas définitivement leurs péchés comme l'a fait le sacrifice du Christ. Passons à la première épître de Pierre, chapitre 1. Un peu plus sur la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 19. Mais par le sang précieux du Christ, en considérant le symbolisme, en considérant l'importance du sang qui est en nous, les propriétés physiques qu'il possède, il élimine les toxines de notre corps. À quel point cela est-il encore plus vrai lorsque nous lisons ce verset aujourd'hui? Le précieux sang de Christ, à quel point est-il précieux? Il n'a pas de prix. Il nous donne la vie. Il a pardonné nos péchés. Comme un agneau sans défaut et sans tache. Il était en fin de compte le sacrifice pascal qui n'avait ni défaut ni tache, capable de payer pour tous les péchés de l'humanité. Capable de nous pardonner toutes nos fautes. Allons à Hébreux 8, verset 6. Hébreux 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'une plus grande excellence, en ce qu'il est aussi le médiateur d'une alliance meilleure, qui a été établie sur de meilleures promesses. Réfléchissons-y. L'ancienne alliance, le sacrifice physique de taureaux, de boucs et d'autres animaux, était physique. Elle ne pardonnait pas véritablement les péchés. Elle ne payait pas véritablement le prix exigé par les péchés de l'humanité, mais combien cela est-il meilleur que le fait que Christ ait versé son sang pour nous en vue de la rémission de nos péchés? Quelle alliance bien meilleure avons-nous? Quelle vocation bien meilleure avons-nous? Relisons Hébreux 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère plus excellent, dans la mesure où il est aussi le médiateur d'une alliance meilleure, établie sur de meilleures promesses. Pour cette meilleure promesse, nous prenons finalement cette coupe de vin, nous méditons sur tout ce que Christ a fait pour nous, nous méditons sur la façon dont son sang nous a purifiés. La meilleure promesse que cela apporte à nous tous. La promesse de la vie éternelle, la promesse de faire partie de la famille de Dieu. Passons à Jean 6, verset 54. Jean 6, verset 54. Nous avons étudié les deux symboles, le pain et le vin. Nous avons examiné leurs caractéristiques physiques et qu'ils ont pour nous, ce qu'ils font pour nous au quotidien et ce que nous mangeons, comment le pain nous fortifie, nous donne la vie, nous donne de l'énergie. L'exemple que nous devons suivre, l'exemple du Christ. Ce qu'il a fait pour nous. Tout ce qu'il a enduré sur son corps, les coups et les blessures qu'il a subies et qu'il a pris sur lui afin que nous puissions avoir la vie éternelle, afin qu'il puisse finalement payer le prix de nos péchés. Et son sang a été versé. Lisons Jean 6, verset 54, pour conclure, car nous comprenons désormais ce que ce verset signifie. Nous le comprenons plus profondément. Nous l'avons revu. Lisons-le. Quiconque mange ma chair et boit mon sang, quiconque prend part au pain de la Pâque, quiconque prend part au vin de la Pâque avec sobriété et dans la crainte de ce que Dieu a fait pour nous par son Fils, à la vie éternelle. et je le ressusciterai au dernier jour. Relisons cela. Et gardons à l'esprit ce que nous avons revu et rappelé à nous-mêmes concernant les deux symboles de la Pâque. Relisons cela. Quiconque mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.